La plupart des artistes vous le diront, qu'ils soient auteurs, actrices, musiciennes ou dramaturges, ils et elles ont l'air d'accord. Il est plus facile d'écrire et de jouer une tragédie que son contraire. Mais dans l'histoire de la musique mondiale, il y a un homme à qui il semble naturel d'écrire sur le bonheur, la joie pleine. Il est afro-américain, il s'appelle Stevie Wonder. Ce matin, Pop & Co plonge dans 20 ans de chansons depuis ses débuts d'enfant star jusqu'au titre Happy Birthday, paru en 1980. Stevie Wonder a écrit des morceaux lumineux et désarmants, tout en nous faisant entrer des sons totalement nouveaux dans l'oreille. Si la musique électronique et les synthétiseurs nous sont familiers aujourd'hui, il y a très largement contribué. Il aurait pu faire de la musique contemporaine, d'avant-garde, mais non. Avec la technologie la plus pointue, il a fait de la pop. Il a aussi conquis une liberté artistique totale à l'intérieur d'une maison qui imposait ses lois en ayant l'objectif suivant : vendre le maximum de disques à l'Amérique tout entière. Stevie Wonder dans Pop & Co, c'est de la politique qui se danse, tandis que nous vivons les derniers jours de campagne, et pour Juliette Armanet, le dernier jour du disco. Ce matin, je vous propose la réécoute d'une séquence où on entre dans les coulisses de sa chanson devenue tube. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Je veux que vous chantiez avec moi. C'est ce qu'il ordonne au public, avec cet aplomb des mômes auxquels personne n'a envie de résister. Nous sommes en 1962 et Stevie Wonder a 12 ans seulement. Quand je dis la la la, je veux que vous répétiez. Compris ? Le voilà lancé, avec sa voix de gosse et son smoking pour grand. Ça s'intitule « La 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 », vous vous en doutiez. De l'autre côté de l'Atlantique, cette ritournelle du petit Stevie Wonder va inspirer un certain Nino Ferrer. À la place de « La 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 », Nino chantera « Zave pas vu Mirza ». Mais c'est une autre histoire. Stephen Jenkins, dit plus tard Stevie Wonder, est né dans le Michigan. Son père est pianiste, à l'occasion, et petit arnaqueur la plupart du temps. Il bat sa femme, la pousse à la prostitution. Le 13 mai 1950, elle accouche d'un garçon. Le bébé est prématuré et atteint d'une pathologie de la rétine. Mal soigné, il devient aveugle définitivement. En 1954, la famille s'installe à Détroit. Et Détroit, c'est quoi ? Le bastion de l'industrie automobile américaine, mais pas que. À Détroit se développe une maison de disques qui va compter dans l'histoire de la musique mondiale. C'est Motown, créé par l'afro-américain Berry Gordy. Stevie Wonder grandit au moment même où ce label discographique est en train de s'inventer.
Le slogan de Motown, c'est « The sound of young America », le son de l'Amérique jeune.
Voici Frédéric Adrian, auteur d'une biographie de Stevie Wonder, parue aux éditions du Castor Astral. Et on reprend.
Le slogan de Motown, c'est « The sound of young America », le son de l'Amérique jeune. C'est pas le son de l'Amérique afro-américaine, c'est comment doit sonner aujourd'hui l'Amérique jeune. On est dans les années 60, avec encore cet optimisme, cette envie de répandre la société de consommation, c'est ce message optimiste de la société capitaliste, américaine, etc. etc. Et Motown, c'est une marque qui est là pour vendre des disques.
Pendant ce temps, Stevie Wonder commence à pratiquer la batterie, le piano, l'harmonica avec les moyens du bord. Il monte un groupe avec un copain, il joue dans la rue. Un jour, il est repéré par un musicien du label Motown qui habite dans le quartier. Et à partir de là...
Donc ce musicien se dit, il y a quelque chose, il y a un petit talent chez ce gamin-là, il va auditionner pour Motown. Berry Gordy, donc, qui est le patron du label et qui est quelqu'un qui a une, à la fois l'oreille musicale et un sens du marketing très très aiguisé, se dit il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose à exploiter et à exploiter à tous les sens du terme. Il réussit à convaincre sa mère de signer un contrat pour que Stevie commence à enregistrer.
Et c'est ainsi que le jeune Stephen Judkins sera surnommé Stevie Wonder ou Stevie la Merveille en français dans le texte. Le gamin connaît le succès tout de suite, y compris en France. Le 13 novembre 1963, on parle de lui dans le programme musical dédié à la jeunesse, Âge tendre et tête de bois, dont vous entendez le générique Sous ma voix. Âge tendre et tête de bois est présenté par Albert Reisner.
Je vous invite à découvrir le visage de ce jeune Américain de 13 ans qui se nomme Little Stevie Wonder. Sur toutes les chaînes de radio, on entend ces disques très très fréquemment. C'est ce qu'on appelle en termes de métier d'ailleurs le matraquage. Parce qu'il va venir prochainement à Paris. Il joue des bongos, il joue de l'orgue, de la batterie, du piano. Il chante et, ce qui n'est pas pour me déplaire, il joue également de l'harmonica. Little Stevie Wonder qui est accompagné par l'orchestre qui accompagnait Ray Charles.
Le piège qu'on a quand on s'intéresse à Stevie Wonder, quand j'ai écrit le bouquin par exemple, c'est la tentation d'interpréter toute sa vie, toute sa carrière à l'aune des grandes réussites des années 70, des chefs-d'œuvre, de sa réussite artistique. Mais quand Berry Gordy le découvre, donc à 10, 11, 12 ans, c'est pas du tout ça. C'est un petit garçon très mignon, très attachant, y compris pour de mauvaises raisons, parce qu'il est aveugle, parce que voilà, pour toutes sortes de mauvaises raisons, et qui en plus a un talent musical. Il joue de l'harmonica, il joue de la batterie, il joue du piano, il chante, il danse. C'est une attraction. C'est particulièrement frappant, par exemple, quand il fait son grand début au Ed Sullivan Show, qui est la grande émission de variété américaine. Ed Sullivan, c'est le Guy Lux américain, à peu de choses près. Il n'est pas annoncé dans les musiciens. Il est annoncé dans les attractions. Il y a d'abord les invités musicaux, et puis il y a une série d'attractions. Il y a un magicien, je crois qu'il y a des chiens acrobates, des choses comme ça, enfin des numéros de cirque. Et Stevie Wonder, mais il est dans les attractions, pas dans les musiciens.
Je veux que vous frappiez des mains, tapez des pieds, sautez, faites tout ce que vous voulez. Nous sommes en 1962 et Stevie Wonder se fait connaître avec ce morceau intitulé Fingertips.
À ce moment-là, Stevie Wonder commence à se produire avec les revues qu'organise son label, c'est-à-dire avec les autres artistes, et il fait un numéro pour le public, un numéro spectaculaire. C'est pas vraiment un morceau, c'est une sorte de petit riff comme ça, où il interpelle le public, où il fait chanter les gens. Sauf qu'il y a un jour où c'est enregistré, et Fingertips, c'est particulièrement impressionnant, puisqu'en fait, c'est un des vrais accidents d'enregistrement. Donc c'est à la fin d'un concert, c'est le dernier morceau qu'il faisait sur sa prestation avant de laisser à la place à quelqu'un d'autre. Il est sorti de scène et le public le rappelle, parce que voilà, il y a de l'ambiance, c'est chaud, etc. Et donc il revient sur scène, contre l'avis de Berry Gordy, qui a toujours raconté qu'en fait il s'est échappé pour revenir sur scène. Si on écoute hyper attentivement la deuxième partie de Fingertips, on entend au tout début quelqu'un qui dit « quelle clé ?» Parce qu'en fait, ils étaient en train de changer de musicien et le bassiste du groupe suivant était déjà installé et il ne sait pas ce qu'il doit jouer. En fait, il voit redébarquer ce petit garçon, il faut qu'il réenchaîne sur le morceau, mais lui, il ne connaît pas le morceau. C'est sans doute un des rares disques qui est aussi spontané. Ce n'est absolument pas un truc prévu, ça a été capté par... un miracle, ça arrive aussi en musique et ça donne cette espèce de numéro hyper spectaculaire, peut-être plus spectaculaire que musical, mais qui impose l'image de Stevie Wonder.
En ce début des années 60, Stevie Wonder est donc un enfant star. Mais pour l'industrie du disque, le problème avec un gamin, c'est que ça grandit. Stevie Wonder en témoigne dans le documentaire de Julie Veil, Stevie Wonder, visionnaire et prophète.
The one thing that was incredible with
Il y avait un truc de dingue chez Motown. C'était le département développement des artistes. En gros, on nous apprenait à communiquer, à savoir comment nous comporter avec les gens. Pour Stevie la petite merveille, ça consistait à dire « Salut, je suis ravi de vous rencontrer » et je faisais un gros câlin. Mais quand le petit Stevie a eu 14 ans et qu'il a dépassé 1m60, c'était vraiment bizarre d'entendre « Salut, ravi de vous rencontrer ». Déjà, je n'avais plus une voix d'enfant, mais une voix d'adolescent.
And you meet the guy and say, "Hi, how you doing? Glad to meet you."
This guy's got some kickers, bugger.
J'étais vraiment devenu trop grand pour faire un câlin aux gens. Le public était un peu paumé. Donc le petit Stevie la merveille est simplement devenu Stevie merveille.
So we changed that name from Little Stevie Wonder to Stevie Wonder.
Sous le nom de Stevie Wonder, le label Motown continue de lui faire enregistrer des albums. Il est toujours fourré dans les studios de la maison, de toute façon. Stevie participe aux disques des autres en jouant de l'harmonica. Il fait un album de reprise de Ray Charles. Motown essaie d'établir une filiation entre les deux artistes pour tenter de faire durer l'intérêt pour Stevie. Il enregistre aussi un album de Noël et puis un autre intitulé « Stevie à la plage » où l'amour est aussi fragile qu'un château de sable, ce genre de truc. Mais les ventes ne sont pas terribles. Et en 1966, le contrat de Stevie Wonder avec Motown arrive à expiration. Donc, ce serait peut-être l'occasion de se débarrasser de ce gosse devenu adolescent. On ne sait plus trop quoi faire de lui, de toute façon. Et puis...
Baby, everything is all right, uptight. Yeah, baby, everything is all right, uptight. Way out of sight, baby.
C'est vrai qu'on entend bien qu'il a mué, là, Stevie. Vous venez d'entendre un extrait de la piste vocale de ceci. C'est Uptight, l'une des premières chansons coécrites par Stevie Wonder. Et c'est le morceau qui lui sauve la mise, puisque c'est un carton. Au point qu'en France, Johnny Hallyday en fait une reprise sous le titre « Les coups ». Rappelons qu'au départ, Uptight est une chanson d'amour.
C'est une vraie chanson, c'est le moment où il trouve vraiment sa voix, vraiment sa présence vocale et puis son style, son approche personnelle. Et là, c'est le premier vrai succès de Stevie Wonder.
C'est quoi cette approche personnelle avec Uptight alors ?
Bah, c'est une soul extrêmement dynamique, extrêmement pêchue. Il fera des choses beaucoup plus sophistiquées après. Mais là, c'est la première étape où il trouve vraiment son style très, très percutant, très, très percussif, où il y a sa puissance vocale qui est mise très, très en avant pour faire des disques qui sont vraiment des disques de danse, d'une efficacité absolument invraisemblable.
Donc, vous l'avez compris, finalement chez Motown, ils vont garder le gosse. D'autant que pour ce qui est des tubes, c'est le début d'une longue série.
Dream of long before I knew. Oh, someone won't.
Pop & Co. Rebecca Manzoni.
Et ce matin, Pop & Co et Stevie Wonder, gamin repéré au début des années 60 par la maison de disques Motown, installé à Détroit dans le Michigan. Frédéric Adrian, auteur d'une biographie de Stevie Wonder.
Motown, en fait, c'est vraiment l'industrie, au sens strict du terme. C'est pas par hasard qu'on est à Détroit, qui est la patrie du fordisme, de l'industrialisation des chaînes de montage pour les voitures, etc. Motown, ça fonctionne de la même façon. Il y a des auteurs, il y a des producteurs, il y a des musiciens, il y a des interprètes. On neige rarement les quatre à la fois. Mais très très vite, Stevie, il fait exploser ce cadre industriel en disant « Mais moi, je sais tout faire. J'ai 16 ans et je sais déjà tout faire. » C'est comme s'il avait l'intuition, en fait, de la réputation qu'il allait avoir après, de cette réputation de génie.
En 1971, Stevie Wonder a 21 ans. Il est donc majeur. Et il est question de renouveler son contrat avec Motown. Et c'est là qu'il commence à imposer sa liberté artistique, son autonomie à l'intérieur du cadre strict qu'est Motown.
L'autonomie personnelle, ça veut dire qu'il n'est plus obligé de travailler dans les studios Motown, avec les producteurs Motown, avec les gens qui surveillent. Motown, c'est une logique industrielle. Les studios, ils sont ouverts de telle heure à telle heure, tu as 4 heures de telle heure à telle heure pour faire tes 4 faces de 45 tours, et ça fonctionne comme ça. Lui, il n'a plus envie de ça. De façon évidente, il entend autre chose, il entend une autre musique, et le hasard fait qu'à ce moment-là, il rencontre deux personnes assez extraordinaires, qui s'appellent Malcolm Cecil et Robert Margoulef, qui sont des musiciens expérimentés, tous les deux, qui travaillent depuis longtemps dans la musique, comme ingénieurs du son, comme accompagnateurs, etc. Mais c'est aussi les pionniers du synthétiseur.
Malcolm Cecil et Robert Margoulef ont installé leur studio dans la cave d'une église baptiste à New York. On en trouve des photos sur Internet. On y voit deux gars, à la dégaine hippie, dans une pièce qui ressemble à la cabine d'un vaisseau spatial avec des câbles et des boutons partout. Parce qu'on a oublié qu'à l'époque, 1971, l'ordinateur n'était pas fin comme une feuille de papier, il n'était pas encore entré dans les foyers, un ordi, ça occupait une pièce entière. Et pour les synthétiseurs, c'était pareil. Avec ces engins, Cecil et Margoulef publie un album de musique électronique sous le nom de Tonto's Expanding Head Band. Et Stevie Wonder découvre ce son du futur que vous entendez sous ma voix, ce son du futur conçu par Malcolm Cecil et Robert Margoulef.
Donc un jour, il se pointe tout simplement au studio, il dit « Vous pouvez me montrer comment ça marche ?» Et tout de suite, il comprend que c'est ça qui va lui permettre d'incarner ce qu'il entend en musique. Là, on dépasse le cadre habituel de l'orchestre un peu classique, une guitare, une basse, une batterie, des cuivres, des claviers. Là, d'un seul coup, on peut tout construire quasiment tout seul. Lui, il a toujours eu ce goût du côté polyinstrumentiste, c'est-à-dire du fait de jouer de tout. Et là, d'un seul coup, non seulement il peut toujours jouer de tout, il peut toujours jouer de la batterie, en particulier ce qu'il fait sur ses disques, mais il peut aussi jouer d'instruments qui n'existent pas, qui sont créés pour l'occasion. Et c'est là qu'il y a une vraie rupture artistique qui dépasse d'ailleurs la carrière de Stevie Wonder. C'est le premier à faire du côté pop ce genre de choses.
Les synthés semblent tellement étranges et futuristes que Stevie Wonder est invité à la télé pour une démonstration. Bienvenue dans l'univers de Stevie, musicien fou dit la merveille. C'est génial, Stevie. Comment tu peux appuyer sur tous ces boutons en étant aveugle? Tu vois, en fait, je l'ai compris en voyant tes nanas. Stevie Wonder utilise ses nouveaux sons avec Malcolm et Margoulef dès 1971. Le titre du premier album qu'ils conçoivent ensemble est révélateur, c'est Music of My Mind, la musique de mon esprit. Frédéric Adrian.
Ce qui est fascinant sur le travail que fait Stevie Wonder à cette époque-là, c'est qu'à la fois, il utilise des technologies qui sont des technologies vraiment de pointe, très sophistiquées, très coûteuses, pour faire des 45 tours de pop classique, les 2 minutes 30, 3 minutes qui vont bien et qui passent à la radio. Et en plus, ça marche tout de suite. Il n'y a pas besoin d'introduction, il n'y a pas besoin d'initiation au genre. Il est pionnier et tout de suite, il a le succès avec des choses pionnières. C'est-à-dire qu'il fait une rupture conceptuelle très très forte en disant on peut faire des disques avec des synthés, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, et on peut les faire en faisant des disques pop et commerciaux.
La preuve avec ceci. Superstition, morceau paru en 1972 sur l'album Talking Book. Talking Book est le deuxième disque écrit avec la collaboration de Cecil Malcolm et Robert Margoulef. Ils travailleront avec Stevie Wonder pour 4 disques en tout. La signature sonore de Superstition, c'est le clavinet, qui sonne comme un clavecin électrique.
Ça fait partie des morceaux, comme quelques morceaux de James Brown par exemple, qui, en arrivant, proclament le nouveau style. L'arrivée du morceau, qui est neuf, qui est innovant, qui est différent de ce qui venait avant, ringardise finalement presque tout ce qui venait avant lui. Ça ouvre de nouvelles perspectives, et c'est un morceau qui a été très très influent chez Prince dans les choses qui viennent ensuite. Ça va vers un funk un peu électro, qui s'oppose à celui de James Brown, qui pour le coup est resté très ancré dans le format habituel avec les cuivres, la basse, etc. Lui, il invente cette dimension électro qui ensuite sera très populaire dans les années 80. J'entends ça dire que c'est pas obligatoirement le plus grand des chanteurs. Lui a une voix immédiatement reconnaissable, mais c'est pas une belle voix classique. Il a pas une grande ampleur, il a pas les basses que peuvent avoir certains ou les aigus que peuvent avoir d'autres. Il a une voix assez limitée, mais qu'il sait inclure dans sa musique. Parce que très très vite, dans sa musique à cette époque-là, la voix n'est qu'un élément d'une tapisserie sonore dans laquelle il mélange différentes pistes, et la voix n'est qu'un des éléments de sa tapisserie sonore. D'ailleurs, il y a peu de textes qui sont faciles à citer. Autant on peut citer du Dylan sans entendre la musique derrière, et ça garde sa force. Si on cite des textes de Stevie Wonder sans la musique, très honnêtement, ça donne pas grand-chose. Il y a très peu de phrases réellement marquantes dans ce qu'il écrit, mais quelque part qui sont un peu utilitaires. Je pense que s'il pouvait chanter uniquement des onomatopées, je suis pas sûr qu'il l'aurait pas fait. C'est vraiment un concept global qui est le concept du son. C'est aussi probablement lié au fait qu'il soit aveugle, mais c'est ce son qui a vocation à unir les gens entre eux. C'est une musique positive. C'est une musique, en effet, il y a un côté solaire dans sa personnalité, lumineux, qui se traduit dans sa musique. Et donc, il aime bien envoyer des vibrations plus positives que les vibrations qu'il entend autour de lui. Une projection vers un avenir meilleur, d'une façon générale.
The Sunshine of My Life, tu es le soleil de ma vie donc, sort en 1972. Et les chansons lumineuses de Stevie Wonder semblent détonner avec l'époque. Ce début des années 70, c'est le moment où l'Amérique noire est en plein désenchantement. Martin Luther King a été assassiné 4 ans plus tôt à Memphis, et avec sa mort, le rêve d'une intégration égalitaire et pacifique de la communauté afro-américaine dans la société est quasi révolu. Les thèmes du ghetto, de la drogue, du chômage auxquels sont confrontés les Afro-Américains envahissent les disques. Au même moment, Stevie Wonder invente une utopie pop en musique.
C'est une musique qui est à la fois très très personnelle. On reconnaît tout de suite quand c'est la musique de Stevie Wonder, même avant qu'il chante, on reconnaît ses accords, on reconnaît sa façon d'écrire, et qui en même temps a vocation à séduire au maximum. C'est-à-dire c'est à la fois très personnel et très collectif. C'est une musique qui a envie d'englober les gens. C'est pas une musique excluante. Et je pense que c'est vraiment son choix politique. Il y a vraiment cette idée de choses partagées, d'utopie politique liée à l'unité. C'est pour ça qu'il s'engagera volontiers aux côtés de Nelson Mandela. C'est pour ça qu'il sera opposant à l'apartheid. C'est pour ça que c'est les causes qui le touchent vraiment, qui sont vraiment des causes fortes, c'est des causes d'unité.
1971, Shaft sort sur grand écran. Le personnage principal, John Shaft, est un détective noir qui arpente les rues de Harlem. Le film marque le début de ce qu'on appelle la Blaxploitation, c'est-à-dire ce moment où des acteurs et réalisateurs afro-américains prennent les rênes pour créer leur cinéma. Et si Stevie Wonder invente une utopie pop avec ses disques dans ces années-là, son répertoire compte aussi des chansons hyper réalistes, avec un quotidien mis en scène, comme au cinéma justement. New York, just like I pictured it. Au beau milieu du morceau Living for the City, Stevie Wonder fait surgir un dialogue comme une scène de film. C'est l'arrestation violente et abusive d'un Afro-Américain sur un parking de New York.
The jury of your peers having found you guilty, 10 years.
Come on, get in that cell, nigger.
Plus qu'une scène de film, ça a même l'air d'un reportage. Et le cours du morceau reprend. La chanson décrit la famille d'un gamin né sur les rives du Mississippi. Son père et sa mère travaillent dur et ne gagnent rien. Son frère vit dans un endroit où, je cite, on n'emploie pas les gens de couleur. Et lui est juste assez en vie pour partir à New York City. Et le texte dit, ses cheveux sont longs, ses pieds durs et crasseux, il est presque mort, étouffé par la pollution. J'essaie de voter, mais pour lui, ce n'est pas une solution. J'espère que ma voix triste résonne en vous et que ça vous motive pour que le monde soit meilleur. Living for the City figure sur l'album Inner Visions, l'un des chefs-d'œuvre que Stevie Wonder publie dans les années 70. Il écrit un dernier disque avec Malcolm Cecil et Robert Margouleff, et il reste silencieux pendant 2 ans. Là, nous sommes donc en 1976. Le contrat de Stevie Wonder arrive encore à expiration avec Motown, et il négocie des conditions jamais obtenues jusqu'alors par un artiste. 13 millions de dollars et, entre autres, la rétrocession de royalties. Le patron Berry Gordy cède à tout. Il ne veut pas laisser s'échapper Stevie Wonder. Wonder travaille sur le double album Songs in the Key of Life pendant 2 ans. Berry Gordy fait même imprimer des t-shirts où on peut lire « On a presque fini » pour faire patienter les fans. Frédéric Adrian.
C'est l'album le plus ambitieux de Stevie Wonder, de probablement toute sa carrière. C'est le premier là où il est vraiment tout seul. C'est son disque le plus long, puisque c'est à la fois un double album, avec en plus, dans la version originale, un petit 45 tours avec 4 chansons. C'est un disque qui est un peu monstrueux. Il y a des mois et des mois de séances. Il y a sans doute des dizaines de chansons qui n'ont pas été retenues, de prestations. Enfin, il y a une liste des fois des gens qui ont probablement enregistré des choses à un moment ou un autre sans être finalement sur le disque. Et c'est le disque le plus ambitieux de Stevie Wonder. Enfin, le titre Le Monde, c'est les chansons dans la clé de la vie. C'est presque spirituel, c'est presque biblique comme titre, quelque chose comme ça. Quelque part, il laisse libre cours un peu une forme de mégalomanie, de « je vais tout faire tout seul, ça va être exactement comme je veux ».
Je suis le maître du monde.
C'est un peu « je suis le maître du monde », ou en tout cas, j'entends quelque chose dans ma tête, et je veux que ce qui est publié sur 10 soit exactement ce que j'entends dans ma tête.
Sur ce disque, il y a ce morceau, Pastime Paradise. Selon l'une des interprétations de ce texte, il est question de ceux qui se complaisent dans un paradis révolu sans penser à construire des jours meilleurs. Stevie Wonder y utilise un nouveau synthétiseur, Dernier Cri, plus les voix d'une chorale de la communauté Hare Krishna, repérée dans une rue de Los Angeles.
Of ignorance, so disgrace. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, gracefulation, consolation, segregation, dispensation, isolation. Exploitation, mutilation, mutation, miscreation, information to the evils of the world.
Allô,
Guillaume?
Oui, Rebecca. Je suis absolument navré.
Ah.
Mais là, j'ai eu une urgence, je dois attraper un train. Et si je discute avec toi, je vais le rater. Je suis vraiment navré. Hein. J'ai pas le choix du tout, mais est-ce que t'as un autre moment?
Je vous présente quand même Guillaume Brière, musicien qui fut membre du duo The Shoes. Guillaume Brière, qu'on va retrouver à coup sûr dans quelques instants.
Allô Rebecca, je suis de retour.
En 2017, pour l'album d'Orelsan La Fête est finie, Guillaume Brière co-compose la musique de cette chanson Paradis.
Ils disent que pour tenir un couple, faut l'entretenir tous les jours. Ces connards n'y connaissent rien en amour. Comme si je devais faire un effort pour t'écouter. Comme si j'avais déjà douté. J'aimerais tes défauts si jamais j'arrive à en trouver.
Avec Paradis, Orelsan, il a réalisé, si tu veux, une chanson d'amour. C'est la définition de la chanson d'amour. Et j'avais pas envie qu'on verse trop dans la mièvrerie, si tu veux. J'avais envie d'un quelque chose d'assez épique. Et moi, j'ai réécrit toute une partie d'accords qui constituaient les couplets. Et vraiment, sans le vouloir et de manière totalement inconsciente, j'ai reproduit les accords de Pastime Paradise. Et donc, je fais écouter le morceau à Aurel et à Scred. Scred, qui est le producteur d'Orelsan avec qui il fait toutes ses musiques. Il me dit, c'est le morceau de Stevie Wonder. Ah, je dis, ah bon, j'avais pas réalisé. Il dit, bah, tu te fous de moi, parce que le morceau s'appelle Paradis, tu refais Pastime Paradise. Eh bien, écoute, c'était sans le vouloir, et d'un seul coup, ça faisait sens. On s'est un petit peu posé la question au début, et puis finalement, on a trouvé que c'était un clin d'œil qui était assez judicieux par rapport au titre du morceau, au thème, etc.
Sauf que, en 95, le rappeur Coolio fait une reprise de Pastime Paradise de Stevie Wonder sous le titre de Gangsta's Paradise. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. Pour la plupart des gens, ce morceau-là, c'est un morceau de Coolio.
Tu fais écouter Pastime Paradise, les gens, ils ont plus la ref de Coolio que de Stevie Wonder. Et comme on était un peu dans le domaine du rap, on disait, est-ce que ça, c'est pas un peu redondant? Ça a déjà été fait, on va dire. On n'avait pas trop envie que les gens disent, ah ben tiens, Orelsan a fait une reprise de Coolio. On n'a rien contre Coolio, hein, évidemment, mais tu comprends.
De la chanson originale, vous pensez quoi de Pastime Paradise par Stevie Wonder?
Cette fameuse grille d'accords qui se répète et que j'ai repris dans Paradis, elle a une particularité, c'est qu'elle est à la fois triste et lumineuse. Mélancolique, mais il y a vachement d'espoir dedans.
Elle fait quoi, cette mélodie, s'il était question de la fredonner?
Ah non, alors là, me fais pas faire. Tu ne m'emmèneras pas sur ce terrain-là. Hein, Non, mais en fait, ça fait partie de ces grilles d'accords que tu peux répéter à l'infini. le morceau, il pourrait durer 20 minutes. Et puis après, il y a aussi l'aspect de la production aussi de Pastime Paradise, où là, on est sur quelque chose de génial, de révolutionnaire. Toutes les cordes, elles ont été faites avec un synthétiseur, ce qui à l'époque ne se faisait pas. Je ne sais pas en quelle année est sorti le morceau, j'aurais dû me documenter avant notre entretien.
76.
Ah oui, alors donc, pour un morceau sorti en 76, il me semble qu'au début, c'était une intention, c'était fait comme ça, et que c'était tellement génial qu'ils l'ont gardé. Parce que parfois, tu écris des arrangements avec un son de synthé comme ça, vite fait. Et puis, tu te dis, bah, plus tard, on refera avec une vraie section de cordes. Et finalement, ça donne un caractère intéressant à la musique.
L'écriture du double album Songs in the Key of Life laisse Stevie Wonder épuisé. Il mettra 4 ans à s'en remettre avant la sortie du disque Hotter Than July, où on entend Frédéric Adrien.
C'est une chanson hyper dansante. Bon, tout le monde l'a déjà entendue, voire chantée à un anniversaire. Mais quand on écoute vraiment ce dont parle la chanson, elle ne parle pas juste d'une fête d'anniversaire. Puisque ce dont parle la chanson, c'est de l'anniversaire de quelqu'un en particulier, c'est l'anniversaire de Martin Luther King. Puisque à cette époque-là, au tout début des années 80, Stevie Wonder s'empare d'une cause, et ça sera vraiment sa grande cause, ça et l'apartheid quelques années plus tard. Et cette cause, c'est faire créer un jour férié pour commémorer l'anniversaire de Martin Luther King. Il y est arrivé, ça a pris du temps, c'est Reagan qui a fini par signer. Et le message de cette chanson, qui est probablement sa chanson la plus directement revendicatrice, alors que ça s'entend pas du tout quand on entend la musique, c'est de la politique qui se danse. Pour moi, c'est vraiment ça l'universalité.
Qu'est-ce qu'il représente en Amérique, Stevie Wonder ?
Pour les Américains, il représente quelqu'un qui est là depuis toujours. Ça fait 60 ans qu'il fait carrière, il a un tout petit peu plus de 70 ans, donc il est là depuis toujours pour les Américains. C'est quelqu'un qui prend la parole régulièrement, qui s'engage en politique, qui est associé aux démocrates, mais qui est très unanimement apprécié. Enfin, sa réussite personnelle, ses chefs-d'œuvre sont largement reconnus. Enfin, il n'est pas considéré comme aussi politique que peuvent l'être d'autres musiciens, mais il incarne une sorte de conscience, pas avec des messages très compliqués, plutôt avec des messages simples. C'est une espèce de conscience populaire, on va dire. Quand on veut regarder l'impact de Stevie Wonder, il faut regarder les gens qui ont repris ses chansons. Tout le monde a repris sa chanson, dans tous les genres. Les musiciens de jazz jouent volontiers du Stevie Wonder. Les musiciens de hip-hop, évidemment, plongent largement dans ce qu'il fait. Les musiciens rock ont enregistré souvent ses chansons. Les Rolling Stones ont repris certains de ses trucs et ont tourné avec lui. C'est un musicien qui transcende les genres. Les musiciens qui écoutent du Stevie Wonder comprennent ce qu'il fait, comprennent ce que nous ne voyons plus, parce que ça nous paraît tellement évident. Quelqu'un comme Picasso a le même problème, entre guillemets, faux problème, qui est que leurs innovations ont été tellement puissantes qu'elles sont entrées dans le langage commun et qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte. C'est de la vraie avant-garde. C'est-à-dire que c'est de l'avant-garde où il y a beaucoup de choses qui viennent derrière qui sont à cause de ça. Stevie Wonder, c'est le même niveau d'influence sur les musiques populaires que les Beatles.
Ce Pop and Stevie Wonder, on s'est plongé dans la biographie de Frédéric Adrien et publié aux éditions du Castor Astral. Je vous signale aussi le documentaire de Julie Veil. Le titre, c'est Stevie Wonder, visionnaire et prophète.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop and Co.
Ah oui, oula, il y a tout ça.
C'est ce qu'elle a dit en parcourant la liste des morceaux que diffuse France Inter. La règle est de n'en choisir qu'un seul. Aujourd'hui, c'est donc Juliette Armanet qui décide du prochain disque dans Pop & Co.
Bon, voilà, j'ai dit en tout premier, sans réfléchir, Malik Judy, Vertige. Ça ça me touche vachement, cet album de Malik, je le trouve magnifique. Voilà, il a sa voix au perché comme ça, j'aime bien. Quelle singularité, Malik Djoudi.
Singularité, on ne peut pas mieux dire. Je me permets d'ajouter deux adjectifs, poignant et élégant. Le nouvel album de Malik Djoudi s'intitule 3 avec un E comme la ville. C'est pas tout à fait comme ça qu'on devait commencer. Juliette Armanet dans le bureau de Pop & Co avec son ordi ouvert pour vous faire écouter quelques-uns des 380 éléments qui composent cette chanson indomptable d'un peu plus de 3 minutes 30, le dernier jour du disco. C'est la chanson d'ouverture de son deuxième album, Brûler le feu. On pense à allumer le feu. Johnny, le Stade de France, un péplum. Et elle est contente qu'on pense à ça.
J'ai hésité, j'avais plein d'idées de pochettes, très mauvais goût, vraiment de très kitsch et tout. Et en fait, comme pour moi, ce titre de disque, il représente quelque chose de très intime. Un vrai combat de résurrection, de faire en sorte que justement ce feu passionnel soit pas un feu destructeur, mais un feu créateur, de survivre à la passion. J'avais envie de faire une pochette beaucoup plus intime que ça. Je suis nue avec juste un foulard de cow-boy, les cheveux dans le vent. Je regarde une allumette que j'ai dans la bouche et qui est allumée, évidemment.
Vous vous êtes rêvé en cow-boy torse nu, quoi.
Bah ouais, c'est un peu ce que je suis quand même. Mais je suis un peu un vieux cow-boy, ouais. Romantique.
Comment c'est venu ces mots-là, le dernier jour du disco?
Eh bien, ce ne sont pas les miens, c'est les mots d'une amie qui s'appelle Diane. Et un jour, je lui ai dit, viens à la maison, j'ai besoin de te parler de mon disque. Je lui fais écouter quelques titres en lui disant, voilà, moi j'aimerais bien que mon disque, ce soit un peu un truc de cow-boy qui marche dans un crépuscule. Et elle me dit, ah ouais, c'est vraiment ton trip, c'est vraiment le dernier jour du disco, quoi. Et j'ai noté cette phrase. Ça faisait écho à tellement de choses pour moi. la fin d'une relation, la fin d'un certain monde, la fin d'une histoire. Et en même temps, c'est comme les 10 secondes avant qu'on rallume la lumière dans une boîte de nuit. C'est le moment, le climax de la fête, le climax d'un amour. C'est juste les 10 secondes avant qu'on dise « clap de fin, c'est fini ». Le dernier jour de disco, je veux l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin.
Dernier jour du disco est une chanson produite par Sébastien. Juliette Armanet en a écrit le texte et co-composé la mélodie avec son frère. Si on effeuille cette chanson comme une marguerite, il reste le piano.
La chanson est née comme ça, hein, de toute manière. Je l'ai composée comme ça.
Je veux le passer sur ta peau.
Avec juste le piano et la voix. Là, justement, ça me saute aux oreilles. Les couplets sont vraiment très drama en mineur. On tourne autour de la douleur, comme ça.
Drama queen, un peu.
Total drama queen, total, mais ça, j'adore. Mais j'avais hésité à appeler mon album comme ça, d'ailleurs. Mais les refrains, justement, ce que je trouve cool, c'est que les refrains amènent une vraie lumière et que d'un seul coup, il y a un soleil qui rentre. Il y a un espoir qui arrive et en fait j'aime beaucoup le contraste entre ces couplets très très intenses et le refrain qui vient te prendre par la main et qui te dit allez vas-y.
Alors si on parle du rythme justement, ouais. Si on écoute la pulsation on va dire.
Alors.
Vous vous êtes marré en écoutant là.
Parce que quand on écoute ça en solo, on a l'impression d'être à Ibiza, quoi, au Macumba Club. Enfin, il y a un truc, c'est déroutant. Il y a un truc très, allez, on y va, soirée disco. Et il y a un truc très club, quoi. Donc c'est étonnant. Moi, je ressens pas ça quand j'écoute la chanson, par exemple. Donc quand on désosse, on tombe sur des os. Oh putain.
Entrer dans le cœur de la chanson Le dernier jour du disco de Juliette Armanet, ce matin c'est Pop & Co. Les arrangements de cordes du morceau sont signés Sébastien.
On s'excuse pas de mettre des cordes, on n'y va pas sur la pointe des pieds. Il y a quelque chose qui est très cinématographique, qui est complètement assumé, qui va dans les hauteurs, il y a beaucoup de portamento, ça glisse, ça bouge.
C'est quoi les portamento?
C'est quand on fait. Quand c'est un peu menaçant, quand c'est pas de la corde lisse, toute plate, on a beaucoup de mouvements de cordes, quoi. Mais moi, j'aime cette disco-là parce que c'est une disco un peu glam rock. Il y a un truc sauvage que j'aime beaucoup, auquel je tiens énormément.
Il y a une dramaturgie dans la chanson aussi. C'est vraiment comme un petit film, ouais, avec. Vous les pensez comme ça ? En disant, bon, alors, acte 1...
C'est le côté acte 1 et tout ça, ça me parle vachement parce que c'était un peu un mini-opéra pour moi, cette chanson, avec ce début comme ça, comme un lever de rideau, très drama, comme ça, on entre dans la chanson. C'est comme une scène d'exposition. Et puis, d'un seul coup, on est surpris, la batterie entre, la cavalerie arrive, le refrain s'anime. Puis, il y a ce couplet où, d'un seul coup, on retombe un peu, on garde juste le kick, comme pour reprendre un peu son souffle, mais le danger revient, les violons s'énervent. Donc ouais, j'avais envie qu'il y ait un peu ce côté petit opéra dans la chanson, ça me parlait vachement ça. Ouais.
C'est la fin, Je vois sur le dessin quelque chose de divin, ton Éden, mon jardin. Le dernier jour du disco, je veux le passer sur ta peau.
En tout cas, la voix là, elle est un peu presque au bord de l'éclatement. Elle a quelque chose de la. Du presque l'ordre du cri, quoi. Et ça, j'y tenais vachement parce que. Parce que c'est ça qui fait la singularité de cette chanson-là, c'est qu'elle soit presque hurlée, quoi.
Le dernier jour du disco, je peux l'entendre en stéréo et te dire que rien de plus beau.
Je sais pas, c'était un surgissement et j'ai jamais eu peur de ça. Je sais que les gens à qui j'ai fait écouter la chanson au début étaient un peu inquiets de cette que la voix aille aussi haut dans le décrochage, mais moi j'y tenais vachement.
Et en même temps, c'est assez casse-gueule à chanter. Non, c'est extrêmement physique. On tremble un peu pour vous aussi.
Ah bah génial. C'est qu'il y a un enjeu. S'il y a pas d'enjeu, bon, bah on est madame tout le monde, on chante Mais celle-là, elle a du danger. S'il y a du danger dans une chanson, c'est ça qui fait qu'on l'aime.
C'est la fin. Les couleurs soudain se confondent au fusain. Ne me lâche pas, c'est rien. C'est la fin. Je vois sur le dessin quelque chose de divin. Ton Éden, mon jardin.
Au masculin et au féminin pluriel, c'est le titre d'une exposition que propose la documentation de Radio France pendant le festival du Printemps de Bourges. Le Printemps de Bourges, ça commence mardi prochain. C'est une balade dans un répertoire où des artistes francophones donnent de la voix pour une cause politique, économique ou écologique. L'expo Engagé, point d'exclamation, se tient à la Maison de la Culture de Bourges du 19 au 23 avril. Koyan Guyen a réalisé cette émission avec Julien Dumont ce matin, Ilinka Negulesco a préparé Pop & Co et c'est Jean-Baptiste Audibert qui s'occupe de la programmation musicale. La semaine prochaine, c'est une autre épopée, celle d'Eddie Barclay. À samedi.